Littérairement vôtre.
Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Alors dis-moi, est-ce que tu as préparé ta valise avec crème à bronzer, lunettes de soleil, chapeau et surtout, surtout, un bon livre? Car n'oublie pas, à la fin de l'émission, nous partons en vacances. En effet, au mois d'août, nous ferons relâche pour un repos bien mérité, mais nous vous retrouverons en septembre pour de nouvelles aventures littéraires. En attendant, nous allons vous emmener dans l'univers de Scott Fitzgerald avec Gatsby le Magnifique.
Francis Scott Key Fitzgerald est un écrivain américain né le 24 septembre 1896 à Saint Paul, dans l'État du Minnesota, dans une famille de la petite bourgeoisie. Son père, Edward Fitzgerald, est d'origine relativement modeste. Il s'est installé à Saint-Paul après son mariage. Sa mère, Mary McKillan, est l'une des trois filles d'un homme d'affaires d'origine irlandaise, ayant fait fortune grâce à l'expansion économique qu'entraîne la guerre de sécession. Ces trois prénoms lui sont donnés en hommage à son lointain parent, Francis Scott Key, qui est le parolier de l'hymne national américain. Cependant, les déconvenues professionnelles de son père sont compensées par l'argent hérité par Molly. Ainsi, le jeune Scott devient l'élève de l'école primaire de St. Paul Academy. Rapidement impopulaire, il rêve de gloire tout en se considérant comme différent des autres garçons. Lecteur éclectique et assidu, il commence à écrire des poèmes et des nouvelles qu'il publie dans le journal de l'établissement UP où il est inscrit en 1911. L'école Newman, dans le New Jersey, c'est là qu'il rêve d'entrer dans une des toutes meilleures universités du pays, Princeton, où le jeune Scott connaîtra ses premières grandes illusions. L'armée est le plus à même de réaliser ses rêves de gloire. Il s'y engage en 1917, à l'entrée en guerre des États-Unis, lors de la Première Guerre mondiale. Il tombe amoureux de l'excentrique Zelda Sayre, 18 ans et pleine d'esprit. C'est pour la conquérir qu'il écrit l'ébauche de ce qui sera son premier roman, le romantique égotiste. Rejeté deux fois, il est finalement accepté sous le titre de L'envers du paradis, et paraît en librairie le 26 mars 1920. Le roman connaît un énorme succès et fait de son auteur le représentant de toute une génération, celle de l'ère du jazz. Les retombées financières permettent à l'écrivain d'épouser Zelda. Francis Scott Fitzgerald et son épouse décide de tirer profit du dollar fort et immigre en France, à Paris et sur la Côte d'Azur.
Après Beau et damné, qui est un roman déjà très représentatif de son auteur, Fitzgerald écrit ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre, Gatsby le Magnifique. Le 27 octobre 1924, il envoie le manuscrit à son éditeur, Maxwell Perkins, des éditions Scribner, qui publie Fitzgerald depuis ses débuts. Enchanté par le style de l'écrivain, il se met à rêver d'une grande destinée pour le roman. À la parution de Gatsby le Magnifique, en avril 1925, malgré les bonnes critiques, les ventes ne décollent pas, même si elle rapporte la jolie somme de 28 000 dollars. Son épouse Zelda a une aventure avec Édouard Jozan, aviateur français rencontré sur la Riviera. Francis Scott perd sa bonne humeur et devient invivable. Fitzgerald est aussi celui qui lance la carrière d'Ernest Hemingway, rencontré au Dingo Bar pour la première fois, fin avril 1925. Dès la fin de 1926, Scott est appelé à Hollywood et Zelda commence à perdre la tête. Une situation qui rend les dernières années de l'écrivain aussi coûteuses que déprimantes. Entre les visites à son épouse, Fitzgerald fait interner Zelda en Suisse puis à Asheville, toujours dans les meilleures cliniques. Son propre alcoolisme, les dépressions et les soucis financiers. Scott Fitzgerald parvient toutefois, au bout de 9 ans, à écrire « Tendre est la nuit ». Cet ouvrage est fortement inspiré de sa femme, Zelda, et de leur relation. En 1935, à l'auberge de Grove Park à Asheville, pendant qu'il se fait soigner pour une tuberculose, il commande environ 30 bières par jour et il tente de se suicider dans le même hôtel, en avalant un flacon de morphine. En 1937, il travaille comme scénariste à la MGM. L'expérience à Hollywood est amère pour Fitzgerald, tout comme pour William Faulkner. Les films ne sont pas des succès et ses scénarios sont souvent réécrits. C'est à Hollywood, le 21 décembre 1940, que Scott Fitzgerald meurt d'une crise cardiaque. Il laisse le prometteur roman « Le dernier nabab » inachevé. Sa femme meurt quelques années plus tard, en 1948, dans l'incendie qui ravage le sanatorium d'Asheville, où elle est internée. Son plus célèbre roman, « Gatsby le magnifique », succès planétaire, fut adopté de nombreuses fois au cinéma, à la télévision ou sur scène. Ce roman culte de la littérature américaine vient d'être édité aux éditions Gallimard dans la collection Papillon Noir. Le texte a été magnifié par les illustrations de Benjamin Lacombe avec des décors art déco. Cette version a été pensée comme un livre-objet avec un dépliant sculpté à vous offrir ou à vous faire offrir. Gatsby le Magnifique. Je demeurais à West Egg, l'œuf occidental, qui est, avouons-le, le moins chic des deux, bien que ce soit là une étiquette des plus superficielles, pour exprimer le contraste bizarre et assez sinistre qui existe entre eux. Ma maison se trouvait à la pointe extrême de l'œuf, à 50 yards à peine du détroit, et resserrée entre deux énormes bâtisses qu'on louait 12 ou 15 000 dollars pour la saison. Celle que j'avais à ma droite était un monument colossal, quel que soit l'étalon d'après lequel on veuille la juger. De fait, c'était une copie de je ne sais quel hôtel de ville normand, avec une tour à un de ses angles, d'une jeunesse saisissante sous sa barbe de lierre cru, une piscine de marbre et plus de 20 hectares de pelouse et de jardin. C'était le château de Gatsby, ou, pour mieux dire, étant donné que je ne connaissais point M. Gatsby, c'était un château habité par un gentleman de ce nom. Quant à ma maison, elle offensait la vue, mais en petit. On l'avait oubliée là, de sorte que j'avais vu sur la mer, vu en partie sur la pelouse de mon voisin, et la consolante proximité de millionnaires, le tout pour 80 dollars par mois. De l'autre côté de la baie, les blancs palais de fashionable It's Egg étincelaient au bord de l'eau. Et l'historique de cet été commence réellement le soir où je pris le volant pour y aller dîner avec les Tom Buchanan. Daisy était ma cousine éloignée. J'avais connu Tom à l'université et tout de suite après la guerre, j'avais passé 2 jours avec eux à Chicago.
Parmi d'autres prouesses d'ordre physique, le mari avait été un des plus puissants athlètes qui eussent jamais joué au rugby. Ayel, un personnage jouissant en quelque sorte d'une renommée nationale et un de ces hommes qui, à 21 ans, atteignent à un degré d'excellence si aigu, quoique d'un ordre limité, tout ce qu'ils font par la suite à la saveur d'un contre-effet. Sa famille était fabuleusement riche. Même au collège, sa prodigalité était un sujet de reproche. Mais maintenant, il avait quitté Chicago et était venu à New York dans un équipage à couper la respiration. Un exemple, il avait apporté de Lake Forest toute une écurie de poneys pour jouer au polo. On avait peine à se convaincre qu'un homme de son âge pouvait être assez riche pour s'offrir un luxe pareil. J'ignore pourquoi les Buchanan étaient venus dans l'Est. Ils avaient passé une année en France sans motif défini. Puis, ils avaient erré de ci de là, irrésolument, partout où des gens jouaient au polo et étaient riches ensemble. Daisy m'avait dit par téléphone qu'ils s'étaient installés à It's Egg, de façon permanente. Mais je n'en crus rien. J'ignorais toutes ces dispositions de Daisy. Mais je sentais que Tom vagabonderait indéfiniment, cherchant, avec un peu de nostalgie, la turbulence dramatique de quelques parties de ballon à laquelle il ne devait jamais prendre part. C'est ainsi que, par une chaude et venteuse fin d'après-midi, j'allais à It Egg voir deux amis que je connaissais à peine.
La somptuosité de leur logis dépassa mon attente. C'était une demeure de l'époque coloniale, blanche et rouge, très gaie, qui dominait la baie. La pelouse naissait sur la plage même et courait pendant un quart de mille vers la porte d'entrée, sautant par-dessus cadrans solaires, sentiers pavés de briques et jardins flamboyants, pour se briser enfin contre le mur en éclatantes gerbes de vigne vierge, comme emportée par son élan. La monotonie de la façade était rompue par une rangée de portes-fenêtres étincelantes à 7 heures de l'or qu'elle reflétait et grande ouverte au vent du chaud après-midi. En habit de cheval, Tom Buchanan était planté, les jambes écartées, sur le perron. Il avait changé depuis Yale. C'était à présent un robuste garçon de 30 ans, aux cheveux pâles, avec une bouche assez dure et des manières hautaines. Brillant d'arrogance, ses yeux occupaient à présent une place prépondérante dans sa physionomie. Il lui donnait l'air de toujours se pencher en avant d'un air agressif. Le chic efféminé de son costume ne parvenait pas à dissimuler l'énorme puissance de ce corps. Il semblait gonfler ses bottes brillantes à en faire craquer les boucles, et l'on voyait bouger de grosses boules de muscles chaque fois que son épaule remuait sous son mince veston. C'était un corps capable, comme on dit en langage de mécanique, d'un moment formidable, un corps cruel. Quand il parlait, sa voix, qui était celle d'un nègre ténorino enroué, accentuait encore l'impression de combativité qu'il dégageait. Il y avait en elle un soupçon de condescendance paternelle, même envers les gens qui lui étaient sympathiques, et certains à Yale l'avaient exécré jusqu'à la moelle.
« Allons, allons, semblait-il dire. N'allez pas croire que mon opinion soit sans appel parce que je suis plus fort et plus viril que vous. Nous appartenions à la même société d'anciens élèves, et bien que nous ne fussions jamais devenus intimes, j'avais toujours senti qu'il avait bonne opinion de moi et qu'avec je ne sais quelle douceur chargée d'âpreté et de bravade qui lui était particulière, il aurait voulu se faire aimer de moi. Nous causâmes quelques minutes sous le portique ensoleillé. « C'est une gentille propriété que j'ai là, » fit-il, tandis que son regard faisait le tour de l'horizon par éclats vifs et courts. Me forçant à pivoter, en me tirant sur le bras, il tendit une large main plate pour me montrer le panorama, ramassant, comme dans un coup de balai, un jardin creux à l'italienne. Un quart d'hectare de roses au parfum profond et pénétrant, et un canot automobile au nez épaté, qui au large chevauchait la marée. Elle appartenait à deux mains, l'homme au pétrole. Il me fit tourner à nouveau, avec politesse, mais brusquerie. « Entrons, » dit-il. Thank you.
I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king. And foolish though it may seem, to me that's everything. The mere idea of you, the longing here for you. You'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. The thought of you, the very thought of you, my love.
Nous pénétrâmes dans une haute galerie, dans une pièce claire, couleur de rose, qu'aux deux bouts des portes-fenêtres rattachaient fragilement à la maison. Elles étaient entr'ouvertes et étincelaient de blancheur contre le frais gazon qui avait l'air de pousser jusque dans la villa. Une brise souffla dans la pièce, tendit les rideaux en dehors à l'un des bouts et en dedans à l'autre, comme de pâles drapeaux, pour les tordre ensuite et les lancer vers le gâteau de noces saupoudré de sucre glacé, le plafond. Puis elle rida le tapis lit de vin, en faisant une ombre dessus, comme le vent sur la mer. Le seul objet qui resta tout à fait immobile dans cette pièce était un énorme divan sur lequel deux jeunes femmes étaient perchées, comme dans la nacelle d'un ballon amarré. Toutes deux étaient en blanc, leurs robes ondulaient, palpitaient comme si elles venaient d'être ramenées par la brise à leur point de départ, après avoir fait le tour de la maison en voletant. Il me semble que je restai plantée là un bon moment, à écouter les coups de fouet des rideaux et le grincement d'un tableau contre le mur. Puis il y eut un boum quand Tom Buchanan ferma les fenêtres de derrière. Prisonnier, le vent se coucha dans la chambre et les rideaux, les tapis et les deux jeunes femmes descendirent lentement vers le plancher.
La plus jeune des deux m'était bien inconnue, étendue de tout son long à l'une des extrémités du divan. Elle restait parfaitement immobile, le menton soulevé, comme si elle portait dessus, en équilibre, quelque chose qui risquait de tomber. Si elle me voyait du coin de l'œil, elle n'en laissait rien paraître, de sorte que je faillis lui présenter des excuses pour l'avoir dérangée en entrant. L'autre femme, Daisy, fit une mine de se lever et se pencha légèrement en avant avec une expression tendue, puis rit d'un petit rire absurde et délicieux. Je ris aussi et m'avançai dans la pièce. « Je suis paralysé de bonheur, » dit-elle. Elle rit de nouveau, comme si elle avait dit quelque chose de très spirituel, et garda un instant ma main dans la sienne, les yeux levés vers ma figure, comme si j'étais l'être qu'elle désirait le plus revoir. C'était un genre qu'elle avait. Elle donna à entendre dans un murmure que le nom de famille de la jeune équilibriste était Baker. J'ai ouï dire que Daisy ne murmurait de la sorte que pour forcer les gens à se pencher vers elle. Critique déplacée qu'il ne lui ôtait rien de son charme.
Quoi qu'il en fût de cela, les lèvres de Miss Baker frissonnèrent. Elle hocha presque imperceptiblement la tête dans ma direction, puis très vite la rejeta en arrière. Sans doute l'objet qu'elle portait en équilibre avait failli tomber à sa grande terreur. De nouveau, une sorte de justification me monta aux lèvres. N'importe quelle exhibition d'assurance m'estorque un tribut étonné. Je regardais ma cousine qui se mit à me poser des questions de sa voix basse et émouvante. C'était l'une de ces voix que l'oreille suit dans les modulations, comme si chaque phrase était un arrangement de notes qui ne doit plus jamais être répété. Son visage était triste et charmant, plein de choses luisantes, des yeux luisants, une bouche luisante et passionnée. Mais sa voix était un excitant que les hommes qui l'avaient aimé trouvaient difficile d'oublier. Une compulsion chantante, un murmure « Écoutez-moi donc !» L'affirmation qu'elle venait de faire des choses gaies et passionnantes et de ces choses gaies et plus passionnantes planait dans l'heure qui allait venir.
Je lui dis que je m'étais arrêté une journée à Chicago, en venant à New York, et qu'une douzaine de personnes m'avaient chargé pour elle de leur affectueuse salutation.
« On me regrette donc ?» s'écria-t-elle d'une voix extasiée.
« La ville est plongée dans la désolation. » Toutes les autos ont la roue gauche arrière peinte en noir comme une couronne funèbre. On entend toute la nuit, le long du lac, se traîner de longs gémissements.
Oh, « C'est magnifique. Retournons là-bas, Tom, dès demain. » Puis elle ajouta hors de propos, « Je voudrais te montrer ma petite. »
« J'en serai... »
« Elle dort. Elle a 3 ans. Tu ne l'as jamais vue ?»«
Jamais. » »«
Eh bien, attends de l'avoir vue. Elle est... »
Tom Buchanan, qui durant cette conversation avait arpenté fébrilement la pièce, fit halte et posa la main sur mon épaule. « Qu'est-ce que tu fais, Nick ? » demanda-t-il. « Je travaille dans une banque d'émissions. » « Laquelle ? » Je lui dis le nom. « J'avais entendu parler de ça, » fit-il, d'un ton tranchant. « Cela mérita. »« Ça viendra, » répondis-je, d'une voix brève. « Ça viendra, si tu restes dans l'Est. » « Ne t'en fais pas. Je resterai dans l'Est, » fit-il. Jeta un coup d'œil vers Daisy, puis un autre vers moi, comme s'il s'attendait à de nouvelles réparties. Et il ajouta, « Je serais un sacré imbécile d'aller vivre ailleurs. »
À ce moment, Miss Baker fit « Absolument !» avec une telle soudaineté que je sursautais. C'était la première parole qu'elle prononçait depuis mon entrée. Elle-même n'en fut pas moins surprise que moi, car elle bâilla, et à la suite d'une série de mouvements habiles et rapides, elle fut debout sur le plancher. « Je suis tout ankylosée, » se plaignit-elle. « J'étais couchée depuis une éternité sur ce divan. »« Ne me regarde pas, » riposta Daisy. « J'ai essayé toute l'après-midi de t'emmener à New York. »« Oh non, merci, » fit Miss Baker aux 4 cocktails qui arrivaient de l'office. Je m'entraîne avec la dernière rigueur. Son hôte la regarda avec incrédulité. Ah oui ? Il avala son cocktail comme si celui-ci n'avait été qu'une goutte au fond du verre. Que vous arriviez jamais à faire quoi que ce soit, voilà qui me dépasse. Je regardais Miss Baker me demandant ce qu'elle voulait bien arriver à faire. J'éprouvais du plaisir à la regarder. C'était une jeune fille mince, à seins petits, qui se tenait toute droite et accentuait cette raideur en jetant le corps en arrière, aux épaules, comme une jeune élève officier. Voilà pour cet extrait de Gatsby le Magnifique. N'oublie pas Jean-Paul, hein, ta valise, je te connais, je sais que tu vas l'oublier. On part en vacances.
Alors on n'est pas là au mois d'août ?
Non, on n'est pas là au mois d'août. Ah, nous reviendrons en septembre.
En septembre ?
En septembre. Présent, hein. Je compte sur toi.
Oui, tu peux compter sur moi.
Alors, en septembre, au revoir à tous et...
Bien littérairement votre.